Le tête-à-tête.
Frédéric Taddeï.
Bernard-Henri Lévy. Il est l'intellectuel français le plus influent, ce sont les sondages qu'ils disent, mais ces mêmes sondages, si on leur posait la question, pourraient tout aussi bien dire qu'il est aussi le plus détesté. BHL, ce sont des milliers de pages noircies dans les livres et les journaux, des milliers d'heures de radio et de télévision, des milliers de prises de position, de pétitions, de tribunes sur tous les sujets. Il est même devenu une guerre à lui tout seul, la guerre en Libye contre Kadhafi, qui est elle-même devenue un livre de 650 pages, La guerre sans l'aimer aux éditions Grasset, et un film d'1h40, Le serment de Tobrouk, qui sort mercredi sur les écrans. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Le serment de Tobrouk, pour moi, c'est un film dont les héros sont vous et votre téléphone.
Oui, le téléphone, oui, peut-être.
Ah, il est très important, le téléphone.
Oui, surtout qu'il ne marchait pas. Il est d'autant plus présent qu'il marchait. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je l'ai si souvent à la main, parce qu'en Libye, les téléphones ne marchaient pas. Donc, c'est vrai.
On vous entend quand même assez souvent téléphoner, et pas n'importe qui. Pas à n'importe qui.
Alors, il y a deux conversations.
Ne dites pas que vous faites semblant de téléphoner devant la caméra.
Il y en a deux qui marchent, en effet. C'est le Touraya. Oui, ça, ce n'est pas le téléphone, c'est le Touraya, c'est autre chose. C'est un téléphone très, très particulier qui marche partout. Et en effet, il y a une conversation avec le général Puga, qui était le chef d'état-major de Sarkozy, quand je suis en approche de Misrata et que j'ai des vrais problèmes pour accoster et pour surtout ne pas avoir d'ennui avec les hélicoptères de l'OTAN qui sont au-dessus de ma tête, et l'autre avec Sarkozy lui-même, à qui je propose de lui amener les rebelles de Benghazi.
Exactement. Mais alors, ça m'a rappelé, je me souviens, quand je vous avais vu, vous étiez au Twickenham à l'époque, qui était votre QG au quartier latin, et vous aviez, c'était bien avant l'invention du téléphone cellulaire, vous aviez un gros téléphone sur votre table de bistrot, puisque c'est là où vous passiez vos journaux, vous noircissiez des pages déjà, et puis il y avait ce gros téléphone qui était là, où vous répondiez sans arrêt. Je vous avais vu une fois et je m'étais dit, tiens, l'intellectuel aujourd'hui, ça n'est plus l'intellectuel avec le stylo, c'est l'intellectuel avec le téléphone.
C'est les deux. Vous avez dit que je noircissais tout de même quelques pages. Et j'en ai noirci beaucoup dans ma vie, mais c'est vrai, Twickenham, c'était un endroit, ça me fait drôle que vous l'évoquiez, même d'ailleurs, c'est un café qui a disparu, qui était merveilleux, qui était à l'angle de la rue des Saint-Pères et de la rue de Grenelle, en face des éditions Grasset, mais mon vrai bureau, c'était pas les éditions Grasset, c'était le Twickenham.
Vous y passiez véritablement vos journées.
J'y passais mes journées, j'y passais même parfois la nuit. Il y a une époque où je n'avais pas où j'étais un peu nomade, pas d'appartement. Et il m'arrivait certaines nuits de ne pas trouver d'hébergement sympathique. Et là, je dormais en chien de fusil sur une banquette du Twickenham. Je faisais la fermeture et je me faisais réveiller à 6h du matin par les gens qui venaient refaire l'ouverture. Et donc là, il y avait deux garçons merveilleux qui s'appelaient Jacques et Henri, le propriétaire et son adjoint. Et je leur avais demandé... pour prix de ma grande fidélité, dont il se servait d'ailleurs comme une sorte d'étendard pour le bar, j'étais une pub vivante pour le Twickenham, de m'installer un téléphone. Et ça a été, il n'y avait pas de portable à l'époque, mais en effet, c'était ce gros appareil. C'était un appareil à cadran. Il fallait quand on avait le doigt trop boudiné, on cassait le cadran. Je me rappelle Lucien Bodard qui, lui, c'était terrible. Il cassait le cadran une fois sur deux parce qu'il se trompait de sens. Il fallait composer, faire tourner le cadran dans le sens des aiguilles du montre, et Lucien Bodard et Jean-Paul Dolé, je ne sais pas si les auditeurs de France Culture se souviennent encore de ces deux noms, j'espère.
Lucien Bodard, c'était l'auteur de Monsieur le Consul.
L'auteur de Monsieur le Consul, grand, très grand journaliste, et Jean-Paul Dolé, merveilleux philosophe, auteur du Désir de Révolution et de Voies d'accès au plaisir et autres livres vraiment fondamentaux de l'époque. Et tous les deux avaient le point commun d'avoir des gros doigts et ils cassaient le cadran de mon téléphone du Twickenham.
On a l'impression qu'il s'y passe des choses formidables dans votre téléphone, Bernard-Henri Lévy, en le regardant le serment de Tobrouk, mais aussi à l'époque, quand je vous voyais au Twickenham, je me disais, il a l'air d'avoir des conversations passionnantes avec des gens absolument... qu'on peut même pas imaginer. C'est un peu ça l'impression qu'on a quand on voit votre téléphone. On dit qu'est-ce qui peut se passer là-dedans ? Peut-on l'imaginer ? C'est un peu comme le lit de Warren Beatty. Vous voyez, je me dis si je devais être réincarné en deux choses, ce serait soit le lit de Warren Beatty, soit le téléphone de Bernard-Henri Lévy.
Oui. Moi, il y a deux objets auxquels je tiens beaucoup. Il y a mon lit et mon téléphone. Il se passe des choses dans les deux.
Oui, vous êtes content de votre lit aussi.
Je suis content de mon lit aussi, oui.
Vous le montrez moins.
Oui, parce que je suis pudique. Mais c'est la fameuse phrase de Barrès. Comme on ne peut pas écrire toute la journée, il faut bien aller à l'Assemblée l'après-midi. Comme on ne peut pas être dans son lit toute la journée, il faut bien téléphoner de temps en temps. Donc, il y a les deux.
Bernard et Lévy, on dit souvent que vous avez un réseau impressionnant. Moi, j'ai l'impression que ce réseau, c'est le réseau téléphonique. Tout se passe par là.
Attendez, d'abord, réseau impressionnant, vous savez, j'ai surtout un réseau très impressionnant d'adversaires.
Oui.
Je ne comprends pas comment.
Je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi le plus détesté, pas seulement le plus influent.
Je ne comprends même pas comment. Moi, je les laisse dire. Le réseau BHL, enfin, heureusement que j'ai quelques amis qui essayent un tout petit peu de faire digue contre la marée noire de l'horreur qui accompagne des insultes et des invectives qui accompagnent la sortie de chacun de mes livres ou de mes films.
N'essayez quand même pas de vous faire passer pour un écrivain maudit. Personne ne vous croirait.
Pas maudit, mais on dit beaucoup de mal de mes productions. Et souvent, on en dit avant même de les avoir vues. Il y a un type qui s'appelle l'inventeur du bonifacisme, courant idéologique bien connu, il s'appelle Monsieur Boniface. Même chose, il a fait une critique, là, je ne sais où, de mon film qu'il n'a pas vu. Mais la critique est faite, et elle est évidemment très sévère. Et je pourrais d'ailleurs m'amuser très très longtemps, je pourrais presque vous dire, les journaux dont je sais que n'ayant pas vu le film, ils vont en dire du mal, et quel mal. Je pourrais presque les faire à leur place. Donc,
mais vous leur rendez bien, parce que ceux qui ont dit du bien, c'est immédiatement dans le JDD, c'est le patron de Lagardère lui-même, c'est Denis Oliven qui prend sa plume et qui dit du bien du film. C'est Laurent Geoffrin, le patron du Nouvel Observateur. C'est Annette Lévy-Villard dans Libération, de grandes pages, alors qu'elle est dans le film. Vous voyez, non ? Vous savez quand même.
Elle est dans le film, ah bon ?
C'est pas elle qu'on voit à un moment avec Netanyahou, je crois ou...
Ah oui, attendez, on la voit. Enfin, on entrevoit son jeu.
Bah, écoutez, pas dit qu'elle avait un grand rôle.
Vous avez l'œil, parce qu'on voit en effet deux jolies gens. Qui sont en effet celles d'une diplomate française de l'époque, mais qui n'était pas journaliste à Libération et qui était en effet Annette Lévy-Villard. Mais vous avez l'œil, bravo, je reconnais bien là l'auteur de Paris Dernière. L'œil est toujours là. Non, mais on peut aussi essayer d'imaginer, dans chaque cas, qu'il y a d'autres raisons quand même que le fait qu'on est patron du groupe Lagardère pour dire du bien du serment de Tobrouk.
C'est le fait qu'on a envie de vous faire plaisir ou de dire tout le bien qu'on pense de ce film.
Dans le cas de Denis Oliven, c'est extrêmement simple. On ne se connaît pas, à peine, mais on a un point commun, c'est une admiration totale et assez puérile, peut-être d'ailleurs, pour la France libre. Voilà, pour la deuxième DB.
Vous voulez dire qu'il n'y a que vous deux ?
Non, non. Mais on fait partie, bien sûr que non. Il y a un vaste club des fanatiques de ça, qui voient le monde à l'aune de ça, qui ne peuvent pas faire un pas sans se demander comment c'était du temps de MDB. C'est une sorte de névrose, hein, peut-être. Bon, Denis Oliven, il fait partie de ces gens qui sont fascinés par ça.
Et il faut dire que le serment de Libye, ça fait allusion
évidemment au serment de Tobrouk. Voilà, il fait partie des premiers qui ont compris le truc. Quand je lui ai dit que ça s'appelait le serment de Tobrouk, pour s'y croiser par hasard, il m'a tout de suite dit serment de Koufra. C'est comme des conjurés qui se retrouvent avec un mot de passe. Donc je crois honnêtement que c'est plus pour ça que parce qu'il est patron du groupe Bidule Machin que...
Ce que je voulais dire, Bernard et Lévy, c'est que quand on parle de votre réseau, et moi je crois que c'est un réseau téléphonique, donc vous voyez, mais simplement, face à, c'est vrai, la détestation que vous pouvez inspirer, en particulier sur Internet, sur la blogosphère, vous avez en revanche des amis fidèles et ce sont des amis puissants.
Des amis puissants, oui, et des amis pas toujours puissants, mais j'ai des amis fidèles, oui, mais encore une fois, c'est pas des amis fidèles. Pourquoi voir le monde ? Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois. Comment dire ? Il y a une vision mafieuse du monde, vraiment, et dans les médias.
Mais attendez, quand on parle d'amitié, c'est pas la même chose. Les Trois Mousquetaires, ils étaient amis, c'était pas une mafia.
Mais c'est pas des amis. Oliven ou Geoffrin, ce ne sont pas des amis. C'est des gens que je connais un peu, pas beaucoup. Ce sont des gens avec qui je me retrouve d'accord sur des sujets très fondamentaux. Depuis la guerre de Bosnie jusqu'à aujourd'hui, nos nostalgies et nos mémoires et nos combats de maintenant. Donc c'est pas de l'amitié. Je vous assure, la presse française et le système médiatique sont en train de crever parfois d'un certain nombre de travers. Par exemple, justement, les effets de secte, les copinages, les journaux qui décident, avant d'avoir lu un livre, qui va en dire du mal ou qui va en dire du bien. Non mais je plaisante pas. Je pense que la presse meurt de ça, qu'elle perd son crédit de ça. Combien de fois on nous dit, c'est un truc qu'on entend très souvent sur certains journaux, oh là là, il vaut mieux être descendu par ce journal, c'est ça qui est bon pour le livre. Ou ne surtout pas être encensé par celui-ci.
Mais vous avez intériorisé tout ça, Bernard et Lévy, depuis très longtemps.
Mais moi, j'aime la presse, j'aime les journaux.
Et vous y êtes bienvenu, en
général.
Et
par exemple, un comportement comme celui dont je viens de vous parler, mettons Télérama, pour reprendre, Eh ben, je trouve ça navrant pour l'état de la presse. Je trouve ça. Je trouve que c'est pas bien pour la santé démocratique. Je trouve que c'est pas bien pour leurs lecteurs qui sont maltraités, qui n'ont pas ce à quoi ils s'attendent. Vous voyez.
Mais pensez à quantité d'écrivains, d'artistes, de cinéastes dont personne ne parle.
Ah, moi,
il y a des chattes de silence terribles sur énormément de gens.
Absolument.
Et c'est ça la vraie censure. Vous n'en souffrez pas
de
celle-là.
Non, je ne souffre. Ben moi, je ne souffre de rien. D'abord, je ne souffre de rien. Et certes, dans cet ordre. Et puis, je ne souffre certainement pas de la censure. Bien sûr que non. Je ne parle pas de moi. Là, je vous parle.
Des goûts, ce sont des chapelles. C'est une...
Je vous parle de cette espèce d'effet de chapelle et des chapelles tellement provinciales qui sont en train d'étouffer la grosse machine médiatique française. Et je trouve ça dommage. On se plaint beaucoup du fait qu'on dit les journaux baissent parce que Internet. Non, les journaux baissent parce que les chapelles, parce que les petites querelles de voisinage. Il me semble, mais c'est pas de moi que je parle. Là, moi, je suis un cas que j'observe en effet par la force des choses au laboratoire. Alors, au laboratoire, j'observe ça.
Bernard Lévy, je vais rester encore un peu trivial une seconde, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et dans le film, dans le serment de Tobrouk, mais aussi dans la vie, et je vous ai sous les yeux, vous portez le même costume noir, la même chemise blanche. Vous les portez dans le film, dans le désert, dans les ruines, à la proue d'un bateau. Vous êtes toujours dans cet uniforme qui est le vôtre. Il y a quelque chose de militaire, c'est devenu votre tenue de combat. À quel moment avez-vous décidé d'adopter cet uniforme, ou en tout cas un uniforme? Vous en aviez un autre avant. À quel moment vous avez décidé ça et pourquoi ?
Mais, attendez, d'abord, c'est pas militaire, puisque, en effet, je suis habillé de la même manière aujourd'hui face à vous, et je ne suis pas en guerre.
Non.
Je suis habillé de la même manière si je me promène sur les quais de la Seine, et je ne suis pas en guerre non plus. Donc, ce n'est pas un uniforme, ce n'est pas guerrier, c'est la manière de s'habiller de quelqu'un à qui la question est indifférente. Je m'en fiche, je ne m'en préoccupe pas et j'ai donc résolu le problème une fois pour toutes. Voilà. Il y a des dandys, moi je ne suis pas un dandy. Les dandys, c'est des gens qui, selon le mot célèbre, se passent leur vie devant leur miroir, demandent...
Ça, c'est ce qu'aiment les dandys. Barbet d'Aurevilly a dit des choses bien plus intéressantes.
C'est l'absence d'œuvre aussi, c'est être à soi-même son propre chef-d'œuvre, bien sûr que le dandysme... Mais bon, mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai une œuvre, j'ai 30 ou 35 livres, elle est abondante. Je ne pense pas que...
Alors que Barbet d'Aurevilly, vous n'en avez pas, vous êtes en train de me dire?
Non, mais Barbet d'Aurevilly faisait l'éloge de l'absence d'œuvre. Il faisait l'éloge des œuvres rares. Il admirait Baudelaire, notamment, parce que Baudelaire avait une œuvre immense. Pour moi, c'est le plus grand poète français.
Et c'était
mais,
un dandy
mais,
aussi.
Mais une œuvre très mince. Et c'était le dandy par excellence.
Et le dandy dit très peu de présence. C'est le contraire de vous.
Très peu de présence.
Beaucoup de présence.
Oui, beaucoup de présence, bien sûr. Et... surtout pas de soucis, rien ne me semblerait, là vraiment je suis sincère, rien ne me semblerait plus ridicule que de me demander chaque matin si je vais mettre un costume noir ou un costume bordeaux.
Ça veut dire qu'on supprime toute fantaisie, mais c'est également, signifie aussi qu'on a, on a renoncé à se fondre dans la masse, à se fondre dans le décor, parce que vous êtes immédiatement reconnaissable, Bernard Lévy, un peu comme Jean-Paul Gaultier ou Karl Lagerfeld ou Sonia Riquel ont adopté comme ça une silhouette, se sont dessinés et on les a depuis toujours reconnus.
Oui, mais je crois que ça fait un moment que j'ai renoncé à l'idée d'être méconnaissable. Ça fait un moment que je me suis résigné au fait qu'en effet, on me dévisageait aussi un petit peu. Le mot célèbre de Cocteau, on me dévisage plus qu'on ne m'envisage. Il en souffrait beaucoup. Est-ce qu'on est envisagé ou est-ce qu'on est dévisagé? Bon, ben voilà, moi je suis les deux. Donc, c'est pas la peine d'essayer de ruser avec ça, de se déguiser. Il y a des gens, je les vois, ils mettent des lunettes noires, des bonnets. Les acteurs américains font ça. Hein, on les voit dans les avions parfois. Quand Los Angeles, Paris, ils ont des bonnets, des blue jeans. Bon, puis on les reconnaît quand même.
Vous-même, vous avez souvent des lunettes noires. C'est pourquoi?
Parce que j'ai mal aux yeux.
C'est pour ça.
Oui.
Parce que souvent, les gens célèbres ont des lunettes noires.
Non,
pas pour passer inaperçu, comme on le croit, mais pour qu'on n'accroche pas leur regard.
Non, moi, c'est parce que j'ai mal aux yeux et que j'ai pas envie. Il m'arrive d'avoir mal aux yeux. J'ai les yeux fragiles et je n'ai pas envie, quand je suis en état de fragilité, en effet, qu'on accroche mon regard. Rien n'est plus intime qu'un regard. Rien n'est plus fort qu'un échange de regard. On lit tout dans un regard. Il y a des moments où j'ai pas envie qu'on lise ce qu'il y a dans mon regard. Voilà.
Le regret de ne pas passer inaperçu, vous dites que vous y avez renoncé depuis longtemps. Est-ce que vous avez aimé la célébrité? J'ose croire que vous l'avez aimé, parce
oui.
que vous l'avez souhaité, vous
oui.
l'avez entretenu.
Non, je ne l'ai pas souhaité. Je ne l'ai pas souhaité. Elle m'est vraiment venue par hasard. il y a maintenant longtemps, pour un livre que j'avais écrit par hasard, enfin pour des mauvaises...
Vous parlez de la barbarie à visage humain.
Barbarie humaine, oui, que j'avais écrit pas par hasard, que j'avais écrit en partie pour de mauvaises raisons.
Mais parfois on fait de bonnes choses avec
oui,
de mauvaises raisons.
Bien entendu,
et le contraire aussi.
C'était un bon livre par ailleurs, je l'avais écrit pour des mauvaises raisons, par amour, pour être clair. Pour une femme. Je l'avais écrit pour un éditeur qui n'en voulait pas, Édition Grasset, qui avait commencé par le refuser. Et voilà, et ça a été en effet un succès mondial et qui a fait la couverture de toutes les magazines du monde, etc. Donc j'ai pas cherché la célébrité. Honnêtement, mes quelques amis qui survivent encore, enfin qui sont encore de ce temps-là, le savent. Ça m'est tombé dessus comme un truc bizarre auquel je ne tenais pas spécialement. J'étais ravi en ce temps-là d'être un éditeur obscur, servant des plus grands que moi. Je les interviewais à l'époque, Roland Barthes, Michel Foucault, Raymond Aron, pour un grand hebdomadaire qui est toujours le Nouvel Observateur. J'étais très content de ça. Non, la célébrité n'a jamais pour moi été un but. À l'époque, ça l'est toujours pas. Voilà, maintenant c'est là, c'est comme ça.
Je vous imagine, Bernard Lévy, quand vous étiez enfant, comme un peu crâneur, avec un père, et vous parlez souvent de votre père, vous en parlez toujours avec émotion et respect. On sent que vous avez eu un vrai père, c'est-à-dire à la fois grand et humain, et qui se laisse dépasser et qui reste le père néanmoins. Oui. Et je me dis que quand vous étiez enfant, vous aviez un père qui vous ramenait à la raison, à plus d'humilité. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que vous étiez crâneur quand vous étiez petit?
Je la ramenais un peu, oui. Oui, je devais la ramener.
Et est-ce que votre père était là pour veiller à ce que ça n'excède pas certaines limites?
Probablement. Mais lui ne la ramenait pas. Lui était souverain. Ce qui est autre chose. Il était doté d'une souveraineté dont j'ai connu peu d'exemples à ce degré, totale, qui imposait un respect immédiat, qui faisait le silence autour de soi et même dans les moments d'adversité qui lui est arrivé d'en connaître, il l'a conservé intact. Et ça, c'était en effet tout à fait impressionnant.
Vous avez toujours voulu ressembler à votre père, je pense, parce que le serment de Libye, c'est le serment de Koufra, vous le dites. Votre père faisait partie de la France libre à cette époque. Il a été à Monte Cassino, il était brancardier, je crois. Est-ce qu'il y a cette image, ce modèle « je veux être un héros comme mon père » ?
Oh, je dirais c'est pas comme ça, mais quand je dis que pour moi la plus noble confrérie du monde, c'est celle de la France libre, cette époque où France libre n'était pas un oxymore, hein, comme c'est souvent aujourd'hui. Quand je dis que la plus belle des aventures, c'est celle des Brigades internationales, ce que je crois aussi. C'est pas juste des idées en l'air, c'est pas juste des idées abstraites, elles ont des visages. Et un des visages, c'est celui de mon père, qui était dans les deux, qui a été très jeune, à peine 18 ans, un des derniers engagés des Brigades internationales en 1938, et qui était donc dans la première division française libre. Donc bien sûr qu'il est un des visages, et le visage majeur de ces deux héroïsmes-là. Donc voilà, alors il n'y a pas que lui, hein. Il y a des écrivains qui fonctionnent comme des étoiles fixes, comme ça, qui guident un peu la marche. Mais lui aussi, bien sûr.
Vous parlez de la France libre, qu'il ne faut pas confondre avec la résistance intérieure. La France libre se bat en uniforme, elle se bat sur des champs de bataille, elle ne commet pas d'attentats, elle n'attaque pas un officier allemand dans le métro, elle ne risque pas qu'il y ait des otages, voilà, et que elle ne va pas se cacher au milieu des civils. Vous faites cette différence-là, elle est importante pour vous. La résistance, c'est quand même un peu des terroristes?
Non, la résistance...
De Gaulle le pensait. Hein.
Ben, oui, la résistance, c'est un peu des terroristes, oui, mais à un moment où il n'y avait plus d'autre choix. À un moment
si, il y avait la France libre, justement.
Quand on était sur le territoire français.
On passait une frontière, on allait en Espagne, on allait au Portugal, voilà. On s'engageait à Londres.
Si on voulait se battre, comme c'était également légitime à l'intérieur du territoire français, il n'y avait pas d'autre choix que de le faire clandestinement. Donc il y avait les maquis, et puis il y avait l'action, il y avait les exécutions individualisées, ciblées dans les villes. Et cela aussi était tout à fait respectable. Et évidemment, ni de près ni de loin, je ne condamnerai cela. Mais pour moi, c'est vrai que les vraies grandes figures légendaires, c'est les combattants en uniforme de la France libre, les combattants français se battant sous uniforme américain ou sous uniforme britannique, et notamment en Libye. Et l'une des grandes émotions de mon aventure libyenne, de ce film, du serment de Tobrouk, c'est quand j'ai compris, et bizarrement je le savais sans le savoir, je l'ai découvert en cours de route, que mon père, donc mon jeune père, qui avait 20 ans, 21 ans, avait foulé les mêmes sables, dans un uniforme dont je ne suis pas très sûr, je ne sais pas selon l'époque s'il était uniforme britannique ou américain, les mêmes villes, les mêmes endroits, peut-être les mêmes émotions. Ça a été un des grands tournants, personnellement, de cette aventure libyenne.
Le tête-à-tête, Frédéric Taddeï, Bernard-Henri Lévy.
Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce que vous pensez, sincèrement, de ces rebelles libyens, des rebelles du CNT? J'ai l'impression, quand on voit le film, qu'ils sont un peu comme des enfants qui auraient besoin d'un père. Et c'est vous qui allez jouer ce rôle de père en devenant à la fois leur impresario, leur ambassadeur, leur porte-parole, leur stratège politique et parfois même un peu militaire. Qu'aurait-on pensé de Gaulle et de la France libre si, je ne sais pas moi, Hemingway, au lieu de se contenter de libérer le bar du Ritz à la Libération, avait rédigé lui-même l'appel du 18 juin? On vous voit rédiger pour les rebelles du CNT, pour les tribus libyennes, leur déclaration. Si c'était lui qui avait négocié au téléphone avec Churchill, si c'était Hemingway qui avait fait justement les plans militaires pour la deuxième DB.
La grande différence, c'est que De Gaulle et les chefs de la deuxième DB ne sortaient pas de 42 ans de dictature. Ils avaient une expérience démocratique. Moi, j'ai eu affaire à des hommes courageux, épris de liberté, voulant se débarrasser de la dictature, mais avec zéro culture politique démocratique. Alors ça va vite, l'apprentissage.
Mais ça n'empêche pas de faire la guerre, ça.
Ça n'empêche pas de faire la guerre, mais ça empêche, par exemple, de connaître le mode de fonctionnement d'une opinion publique occidentale. Ça empêche de savoir de quelle manière on peut l'émouvoir. Moi, ça, en revanche, je sais faire.
Regardez Staline et les Soviétiques, ils ont su très bien s'y prendre quand il a fallu nous émouvoir pour qu'on leur envoie du matériel au moment de la guerre contre les nazis.
Oui, sans culture démocratique, peut-être.
Ils avaient le don de la propagande.
Ils avaient le don de la propagande. Moi, j'ai eu affaire à des hommes qui avaient toutes les qualités pour gagner cette guerre, sauf en effet, la Libye, quand j'y entre, hein, dans ces jours de mars 2011, c'est vraiment c'est comme ce que j'imaginais être la Corée du Nord, la Libye sortant des 40 ans de Kadhafi. C'était un pays coupé de tout. Les gens n'avaient jamais voyagé. Les langues étrangères étaient interdites depuis 10, 15 ou 20 ans. Il n'y avait pas de journaux. Connaissance du monde extérieur très, très, très fruste.
On pouvait s'y rendre. Néanmoins, du temps de Kadhafi, on pouvait aller en Libye. On n'y passait pas ses vacances, voilà. Mais on y allait.
Mais d'abord, on en sortait très difficilement quand on n'était pas un hiérarque du régime. Puis les gens qui venaient en vacances en Libye, vous savez, à part... Bon, peu importe, mais enfin, il n'y en avait pas des masses. Donc voilà, c'est pas une question d'impresario. J'ai voulu aider ces hommes à gagner cette guerre. Je me suis mis à leur service. Je me suis mis au service des combattants libyens. Qu'est-ce que je pouvais faire pour eux? Quand je me suis mis au service des combattants bosniaques, j'ai tourné un film de propagande, un film de combat, pas de propagande.
Oui. Pas trop langue à fourcher.
Peut-être. Bosna, c'est entre le combat et la propagande. Bon, là... J'ai tourné un film aussi pour eux, mais qui est sorti plus tard, alors qu'ils avaient déjà gagné. Et puis j'ai mis ma plume à leur service.
Alors justement, beaucoup, peut-être qui n'ont pas vu le film, disent que c'est un film de propagande, cette fois-ci pour vous. On y voit, vous y montrez tous les exploits que vous accomplissez pour cette rébellion libyenne. Et ils sont nombreux, on vous voit, pas seulement avec le téléphone, parfois sur des cartes. Vous ne vous économisez pas, comme on dit. Alors est-ce que... Le livre était sorti, il fait 650 pages, vous racontez en détail tout ce qui s'est passé. Le film sort à son tour. Est-ce que la façon dont vous y prenez pour raconter tout ça autant en détail, est-ce que c'est parce que vous avez peur qu'on ne vous prenne jamais au sérieux? Vous avez tellement l'habitude d'être attaqué, critiqué, caricaturé. Là, vous insistez parce que vous dites, merde, là, ça vaut peut-être le coup que pour une fois, on m'aime.
Oui, oui. Non, je tiens pas. Non, quand même, c'est pas le problème. Non, quand même, c'est pas le problème. Non, j'ai fait un film où je montre, en effet, ce que j'ai fait. Voilà, je montre ce que j'ai fait. Je montre pas ce que j'ai vu. Je ne montre pas ce que les autres ont fait. Je ne montre pas ce que j'imagine de ce que d'autres ont pu faire. Je montre ce que j'ai fait. Voilà, c'est le sujet du film. Donc, ce n'est pas des exploits. J'ai fait des choses également petites. J'ai fait des choses minuscules. Tout ça est montré. C'est un journal.
Mais comme on voit très peu les combattants libyens, on vous voit, vous, avec leur chef, mais oui. On ne voit pas les hommes qui se battent au même moment.
Parce que j'étais pas suffisamment avec eux, parce que j'étais pas. J'ai été à plusieurs reprises en première ligne, mais j'y ai pas passé ma vie. J'ai pas tenu de fusil comme eux. Donc, encore une fois, je vous dis, j'ai filmé ce que j'ai fait. Donc, par définition, j'étais pas membre d'une unité combattante sur le front d'Ajdabiya. En revanche, je suis sur le front d'Ajdabiya avec des combattants libyens. Voilà, il y a cette scène. Je suis sur le front de Gualiche, ce front très, très rivage des Sirtes ou désert des Tartares. Je montre ça. Je ne peux pas vous dire mieux. Le problème du cinéma documentaire par rapport au cinéma de fiction, c'est que dans la fiction, on fait 50 prises. Dans le documentaire, on n'en fait qu'une. Et c'est la dernière, et c'est la première, et c'est la seule. C'est ça qu'on monte, et c'est ça qu'on montre.
Bernard Lévy, en entrant même en Libye, vous êtes accompagné de quelqu'un qui va vous photographier ou vous filmer. Maintenant, on peut faire la même chose avec... le même instrument sert à la fois à être photographié et à être filmé. Depuis lors, vous avez été classé par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Vous auriez pu vous dire, c'est bon, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Mais non, vous aviez pensé dès le début à emmener quelqu'un qui va vous filmer. C'est là où je me dis toujours, il a toujours peur qu'on ne le croie pas.
Non, j'ai... Bien sûr que non, j'ai toujours peur de ne pas faire assez, j'ai toujours peur de perdre mon temps, j'ai toujours peur que dans le temps qui me reste à vivre, je ne fasse pas tout ce que je peux, tout ce que je suis intellectuellement, physiquement en mesure de faire. Donc quand je vais en Libye, quand je passe cette frontière pour la première fois, je me dis, je vais faire un reportage. À l'époque, je voulais faire un reportage de presse écrite. Je ne vais pas le faire pour un journal, je vais le faire pour 12 journaux. Je connaissais quels 12. J'étais syndiqué à l'époque par le New York Times. Et puis, j'avais un photographe parce qu'il fallait que pour certains journaux, il y ait des photos. C'est aussi bête que ça. Je voulais une économie optimale de ces quelques premiers jours que je passais en Libye. En revanche, le cinéma, c'est autre chose. Je ne savais pas que Marc Roussel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le co-auteur du film, le co-réalisateur, je ne savais pas qu'il me filmait.
Oh, me dites pas ça quand on vous voit avec Abdel Jalil, qui est le chef de la du CNT, qui est devenu depuis le mur libyen.
L'un des grands.
Dites pas que vous savez pas qu'il vous filme.
Je vous le dis, l'un des grands apports de Marc Roussel à cette aventure et à ce film, c'est ça. Il avait une caméra. Ceux qui nous écoutent et qui sont un peu féru de tout ça sauront de quoi je parle. Moi, je sais pas très bien, qui s'appelle une 5D.
Oui, c'est un appareil photo avec lequel maintenant on peut faire des films ou des émissions de télé.
Oui, mais voilà, cet appareil photo. Donc, il était là, il me photographiait. Et puis, dans cet appareil 5D, il semble qu'il y a un bouton, il suffit de le tourner un tout petit peu à droite ou à gauche et ça se met en mode film.
Comme sur tous les appareils photo maintenant,
maintenant
numériques.
Maintenant, je suis nul là-dessus. Voilà. Donc,
même
il
votre
se trouve...
portable, vous savez, on peut filmer avec.
Je sais pas le faire. Peu importe, mais je vous raconte l'histoire de Marc Roussel, qui est un photographe de guerre, un photoreporteur en général, et c'est lui qui, ça c'est son trait de génie, qui face à certaines scènes, dont ma première rencontre avec Abdel Jalil, ce type que je ne connaissais pas, ce chef secret d'une rébellion naissante, à qui je propose de l'amener à Sarkozy, lequel Sarkozy je n'ai pas encore approché, je ne sais pas s'il va même me calculer ou me prendre au téléphone. Cette scène-là, Marc Roussel, sans que je le lui demande et sans que je le sache, il tourne le bouton et il filme. C'est ça l'histoire.
C'est marrant comme vous n'avez pas confiance dans votre téléphone, alors que moi, je lui trouve des vertus magiques, quasiment des pouvoirs à ce téléphone. Oui. Et vous, sincèrement, vous êtes dit peut-être que le président Sarkozy ne va pas me prendre au téléphone.
Écoutez, on était en non-speaking terms depuis précisément Kadhafi. On ne se parlait plus, sauf une fois, depuis la réception de Kadhafi à l'Élysée. Et les derniers mots que nous avions échangés, c'était des noms d'oiseaux, qui sont dans le film d'ailleurs. Un Sarkozy très violent qui dit « ça commence à bien faire, c'est le son droit de l'homme donné depuis le café Flore ». Ça, c'est le mot de Sarkozy. Et moi qui réponds la diplomatie de la France est dans le caniveau et qu'en être à recevoir Kadhafi est une honte. C'est les derniers mots qu'on avait échangés. Donc, vous savez, je l'appelle depuis mon touraïa pour lui dire textuellement, j'ai rencontré des types bien, je pense que la France devrait les reconnaître. Franchement, c'était qui tout double. J'ai confiance en mon téléphone, oui. Mais confiance en moi, là, elle était quand même, elle rencontrait sa limite.
Non, Lévy, J'ai quand même l'impression que vous avez envie d'être un héros, que rien ne vous apaise, que vous avez toujours quelque chose à prouver. J'ai l'impression que vous êtes loin de la sagesse. C'est bizarre pour un philosophe. Ça, normalement, un philosophe, on se dit, à partir d'un certain âge, il y a la sagesse qui arrive. Vous, non.
Ben non, mais moi, la sagesse, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Et je ne crois pas que ça soit la définition de la philosophie. Alors ça, vraiment, je suis même sûr du contraire, et notamment la philosophie moderne. Vous savez, le fameux mot d'Adorno qui disait plus de poésie après Auschwitz, finalement il s'est repris après, il a dit qu'on pouvait quand même en faire. Moi je dirais plus de philosophie sage après Auschwitz, ou après la Colima, ou après les grands crimes totalitaires. C'est pas possible, non, de faire de la philosophie contemplative, genre petit traité des grandes vertus, ou grand traité des petites vertus, réflexion sur la vie, la mort, la sagesse et le temps. Je crois qu'après Auschwitz et à l'heure de des massacres en Libye ou en Syrie aujourd'hui, c'est juste obscène.
Mais c'était pas obscène après les grandes épidémies de peste, après le premier conflit mondial, la guerre de 14, une atrocité épouvantable. Enfin, c'est tellement absurde.
Peut-être, mais c'est pas la même.
Tous ces vieux qui envoient des jeunes à la mort.
Je sais, c'était abject. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la littérature moderne naît là, la littérature moderne, c'est-à-dire le surréalisme. Elle naît exactement de ce que vous dites là. C'est des médecins de Nantes, c'est des jeunes démobilisés qui s'appellent André Breton, Louis Aragon, et qui disent exactement ça. Cette guerre était tellement meurtrière et absurde qu'on va pousser l'absurde et la détestation de ce monde jusqu'à son terme. Et on va pousser le nihilisme jusqu'au bout. Bien sûr, ça donne la littérature moderne. Elle naît de l'absurdité carnassière du désastre de 14. Et bien, la littérature et la philosophie moderne naissent de du tragique absolu qu'est la Shoah, puis la découverte des camps soviétiques.
Bernard Lévy, vous avez décidé très jeune, me semble-t-il, de devenir écrivain. En tout cas, vous l'êtes devenu à un âge encore jeune. Vous auriez pu vous contenter d'être écrivain, d'être un intellectuel, d'avoir de l'empire sur les esprits. Vous avez voulu intervenir, agir sur le monde. Qu'est-ce qui vous a rendu interventionniste?
Un, l'appétit. Deux, ma philosophie.
L'appétit, déjà, d'avoir de l'empire sur les esprits.
L'appétit insatiable. Plusieurs vies à la fois. Les vies, oui, ça, il y a ça, bien sûr. Les vies, voilà. Et rien n'est assez. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un de mes épouvantables défauts. Et puis ma philosophie, c'est-à-dire que je suis un philosophe qui pense que l'activité de l'esprit ne vaut pas grand-chose si elle n'aide pas les autres à vivre, si elle ne se soucie pas de la misère du monde et si elle ne paye pas la dette inextinguible que chacun contracte à l'endroit de ses semblables. Ça, c'est ma philosophie. C'est une manière très vulgaire de dire l'esprit, par exemple, la philosophie de Lévinas, dont je suis un disciple. Donc les deux ensemble, mon appétit de vie d'un côté, et plusieurs plutôt qu'une. Et puis, le cœur de ma philosophie qui est vraiment interventionniste, qui pense vraiment que la pensée, c'est encore mieux quand ça devient de l'action, qui pense que les idées, quand c'est platonicien, en l'air, c'est pas très intéressant, mais que quand ça permet de changer le monde, c'est formidable. Les deux couplés.
On peut changer le monde aussi, ou avoir l'impression qu'on peut changer le monde, parce qu'on change pas plus le monde en intervenant qu'en écrivant. Mais on peut avoir l'illusion que le pouvoir des mots a été si fort.
C'est tout le débat. Quand, au moment de l'affaire Félix Fénéon, et l'affaire Ravachol et les premiers terroristes français, etc., Mallarmé se pose le problème. Il dit qu'est-ce qui est plus terroriste, qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui change le plus le monde, la bombe des premiers artificiers, machin, ou un poème. Et il ne sait pas.
Oui, parce qu'il le résume à un poème, mais si je vous disais Nietzsche, qu'est-ce qui a le plus changé le monde, Ravachol ou Nietzsche?
Ah bah oui, non,
c'est évidemment Nietzsche.
Ravachol n'est pas sérieux, mais qu'est-ce qui a le plus changé le monde entre, je ne sais pas moi, Martin Luther King ou Nietzsche? Les deux. Et quand on n'a pas la chance d'être Nietzsche ou Martin Luther King, ce qui est mon cas.
Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça n'est pas le fait que vous n'aviez pas confiance en vous en tant qu'écrivain, en votre postérité au fond?
Attendez,
C'est pas la même chose, vous avez raison.
Oui, oui, oui. J'ai surtout pas quoi. Je sais qu'il y a un Nietzsche dans l'histoire de l'humanité.
Enfin, il y en a eu d'autres qui ont compté.
Oui, mais enfin.
Ehud Barak, dans le serment de Tobruk, vous compare à Voltaire. Il dit depuis Voltaire, jamais aucun philosophe n'était allé sur le terrain. Il exagère un peu.
Il exagère totalement. Donc, quand on n'est pas Nietzsche et quand on n'est pas Martin Luther King, on essaie d'être un peu des deux. Oui, ça c'est vrai, je peux dire ça. C'est pas être exagérément modeste que de vous dire ça. On essaie d'être un peu, de s'inspirer un peu des deux, faire et dire, oui.
Quand on se mêle de tout, ce qui a été votre cas, je disais, vous avez noirci des pages, il y a des milliers d'heures d'antennes, j'imagine, que pourront retrouver un jour vos biographes, où vous intervenez sur tous les sujets. Quand on se mêle de tout, on en est réduit à un moment à faire la morale ou à faire la police. Est-ce que ça vous a pas dérangé, ça ? Vous avez fait la morale et vous avez fait la police. Dans le bloc-notes, ailleurs, dans les tribunes, dans les pétitions.
J'ai fait la police, oui. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez
la police. La police de la pensée, je veux dire, pas la police. Vous n'arrêtez pas les gens.
Mais... La police sans pouvoir coercitif, la police sans être certain que je serai écouté.
Mais vous sentez bien qu'à un moment, vous êtes réduit à ça.
Non.
L'interventionnisme peut vous réduire à ça.
L'interventionnisme et la philosophie, quand on n'est pas un relativiste, quand on ne pense pas que tout se vaut, quand on ne pense pas que le bien et le mal, c'est pareil, ça consiste à donner... à donner son avis, oui, à dire que, en effet, que la parole de Dieu donné ne vaut pas la parole d'Elie Wiesel. Oui, ça c'est sûr, et que ceux qui ont la
tentation... Ça c'est choisir son camp. Ça c'est choisir son camp.
Pas du tout, c'est choisir le camp de l'humanité,
oui,
contre l'inhumanité.
Ouf.
Ah mais c'est pas ouf. Justement, c'est pas deux camps. Eh bien, nous y voilà. Choisir son camp, ça c'est une phrase que je pourrais épingler dans un bloc-notes entre Elie Wiesel et Dieu donné. C'est pas deux camps, c'est d'un côté le camp de l'humanité, Elie Wiesel, on peut aimer ou pas sa littérature, mais c'est le camp de l'humanité martyrisée, et de l'autre côté, c'est un petit salopard qui, pour faire parler de lui, va de provocation en provocation. C'est pas deux camps. Les antisémites, par exemple, il y avait ce débat au moment de Forisson. Je me rappelle, j'avais été tellement choqué il y a 25 ou 30 ans, il y avait un grand journal qui croyait être objectif en mettant côte à côte une tribune de Forisson et puis une tribune d'un type qui disait la vérité. C'est-à-dire qu'en effet, qu'il y avait eu l'extermination des Juifs. Et il croyait être objectif. Ben non.
Oui, c'est une vieille phrase. On dit l'objectivité, ça dépasse 5 minutes pour les nazis, 5 minutes pour les Juifs.
Voilà. Donc, Wiesel, Dieudonné, c'est la même chose. Ou Wiesel, Ramadan, ou peu importe les noms dont ça s'indexe. Mais c'est pas faire la police ou faire la morale que de rappeler cela. Oui, et c'est pas choisir son camp, choisis pas mon camp.
Mais vous avez pris deux exemples qui étaient effectivement Elie Wiesel et Dieudonné.
Mais c'est à cet exemple-là que vous m'avez objecté que je choisissais mon camp.
Donc, bien sûr, j'ai...
Dont acte, merci.
Voilà. Mais vous savez,
question
bien
suivante,
que vous savez bien que si on reprend toutes les heures et toutes les pages noircies, vous êtes en intervenant partout, vous faites la morale partout.
Pas tellement.
Non,
pas
vous
tellement.
Avez...
Quand je défends Cesare Battisti, par exemple, j'étais un des rares en France avec Fred Vargas à le défendre. Quand bien avant, je défendais Tony Negri au début des années 80. Tout le monde, enfin, je rappelle que je suis
et bien des Italiens, pardon de vous interrompre, bien des Italiens diraient que dans ces cas-là, vous défendez des assassins,
voilà,
des terroristes,
voilà,
etc. Et ils vous diraient que ça n'est pas choisir son camp, que c'est choisir l'humanité contre l'abêtissement au cœur, encore fécond.
Moi, en tout cas, à qui vous vous adressez à cet instant, je vous dis que je ne fais pas la police, je ne défends pas, voilà, je défends un écrivain persécuté ou quand je défends Polanski, je fais pas la police. Je défends quelqu'un qui est au contraire l'objet d'un lynchage policier généralisé dans un moment d'une séquence française tout à fait étrange où chaque citoyen français devenait un policier. C'est ça les polices.
Mais là, c'est des cas où vous défendez des gens, c'est pas la même chose.
Mais
quand on intervient, on n'est pas obligé. Parfois, on ne peut pas se contenter de défendre. Parfois, on attaque.
Est-ce que j'ai pas fait plus souvent ça? Quand vous dites faire la police, ça veut dire quoi? Accabler quelqu'un?
Oui, c'est désigner du doigt, c'est désigner des ennemis. Ce qui est le propre, même de Clausewitz disait, c'est le propre de la guerre.
C'est la guerre.
Donc
c'est...
de la polémique.
Ah ben, c'est pas la police. La guerre, c'est quand j'attaque Badiou, quand je vous consacre un bloc-notes parce que vous êtes puissant. parce que vous avez une grande émission, parce que vous êtes, vous avez le pouvoir de un grand pouvoir, non pas de vie et de mort, sur l'espace public français, vous avez le pouvoir de promouvoir un livre ou de le descendre. Je m'attaque à quelqu'un de puissant. Je ne crois pas que vous trouverez tellement. Voilà. Et c'est pas de la police, c'est de la guerre. Je m'adresse à quelqu'un que je considère et que je respecte, qui est vous. Je pense qu'il a dit ce jour-là une énorme connerie. Je le dis, je consacre un bloc-notes.
Et je vous ai répondu d'ailleurs.
Vous m'avez répondu, oui. Je me suis gouré, je vous ai confondu avec un footballeur. Oui,
mais en plus, vous aviez tort. Mais bon, ça, on ne va pas en parler
ici. On ne va pas reparler de ça ici. Non, mais c'est vous dire que ne confondez pas tout. Faire de la politique, ce n'est pas faire de la police. Faire la guerre dans les idées, ce n'est pas être justicier. Défendre des gens injustement attaqués, ce n'est pas être Fouquier-Tinville. Tout ça, c'est l'inverse.
Vous écoutez le Tête à Tête de Frédéric Taddeï.
Bernard-Henri Lévy, le pouvoir vous intéresse, ceux qui sont au pouvoir? J'ai l'impression qu'il vous intéresse beaucoup, ceux-là. On les voit dans le serment de Tobon, qui viennent tous d'ailleurs. Hein. Hillary Clinton, elle est là.
Mais s'ils viennent tous, c'est que c'est peut-être moi qui les intéresse.
Ou c'est vous qui avez le pouvoir, je
plus,
ne sais pas.
Plus, que je plus qu'ils ne m'intéressent, eux. En tout cas, ils sont dans
c'est
mon
possible.
Film.
C'est possible. Il y a Hillary Clinton, il y a David Cameron, il y a Gérard Haroll, l'ambassadeur de France à l'ONU, il y a Abdoulaye Ouabdé, il y a évidemment Nicolas Sarkozy, il y a Ehud Barak, il y a Netanyahou, ils sont tous là. J'allais dire, est-ce que le pouvoir vous intéresse pour vous, mais aussi pour ceux qui le détiennent?
Pour moi, s'il m'intéressait, ça se serait. En tout cas, je m'en serais aperçu depuis le temps. J'arrive à un âge relativement avancé et je ne l'ai jamais exercé. Je n'ai jamais été tenté même de le faire.
Mais vous pouvez influencer le pouvoir. Ah, et vous l'avez fait, ça, souvent.
Mais ça avec passion, avec acharnement, avec rouerie, avec ruse, avec brutalité, avec tout ce que vous voudrez.
Et ça, c'est avoir du pouvoir. Si vous m'en conférez à moi, qui n'ai qu'une émission de télé...
Ce pouvoir-là, oui, naturellement.
Voilà.
Naturellement.
Ce pouvoir-là, vous avez toujours
avoir
intéressé.
Le pouvoir, en effet, d'influer sur ceux qui prennent les décisions et de les amener à, en l'occurrence, éviter un massacre, à ce pouvoir-là, oui, j'essaie de l'avoir. Et je pense que c'est... je pense que c'est ce qui peut arriver de mieux à un intellectuel, à un manieur d'idées. Et deux, je crois que quand c'est possible, c'est un bon signe pour une démocratie. Ce que montre le film de mon interlocution silencieuse ou volubile avec Sarkozy, c'est très intéressant. On est d'accord sur à peu près rien. J'ai pas voté pour lui en 2007. Je n'allais pas voter pour lui en 2012. Et pourtant, il se passe un truc entre lui, président de la République, et moi, écrivain isolé. Il se passe une chose. Et ensemble, en effet, on fait avancer un peu les trucs. Je fais agent de liaison entre lui et le CNT. Je lui amène à plusieurs reprises les révolutionnaires libyens, dans son bureau, à minuit, etc. Ben ça, où est-ce que ça peut se passer, sinon dans une démocratie extraordinairement avancée? Des relations de ce type entre un homme de pouvoir et un irresponsable dans l'ordre du pouvoir, c'est la preuve même de la démocratie.
Est-ce que justement l'intellectuel ne doit pas rester un irresponsable en côtoyant, en fréquentant le pouvoir, en agissant, en influençant le pouvoir?
Oui, il doit
on
rester
devient
libre.
Soi-même le pouvoir aussi, et on risque de s'y brûler les ailes.
Il doit rester, oui, peut-être, mais il doit rester. Il ne se brûlera pas les ailes s'il reste libre. Et moi, le souci qui était le mien, et ça, je crois que ça se voit dans le film. Enfin, j'espère que ça se voit dans le film. En tout cas, j'aimerais que ça se voit. Un des soucis qui a été le mien pendant toute la durée de cette aventure, c'était bien sûr que cette guerre se termine, que la liberté l'emporte, mais de rester libre, et notamment libre du président Sarkozy. Je pouvais reprendre mes billes à tout instant, et il le savait. C'était un compagnonnage qui était constamment provisoire. Je ne savais pas chaque matin si ça n'allait pas se rompre l'après-midi. Le dernier voyage à Tripoli, d'ailleurs, le fameux voyage de la victoire, quand Sarkozy et Cameron se rendent à Tripoli et sont acclamés par la foule en liesse, qui remercie la France et l'Angleterre. Il y a un petit signe qui a l'air de rien, mais qui pour moi était très important. Je n'ai pas voulu voyager dans l'avion présidentiel. Je n'ai pas voulu être dans la délégation de Nicolas Sarkozy. Je suis allé 2 heures avant lui dans un autre avion. Avant, et j'étais là déjà à Tripoli, sur les marches de l'hôpital, quand il est arrivé avec David Cameron. C'est une des premières scènes du film. Et ça, pourquoi? C'est pas pour la ramener, comme on disait tout à l'heure, pour crâner, c'est pour rester libre. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, parce que sinon, je suis mort. Les ailes sont brûlées et le reste.
Bernard Lévy, quand on regarde le sommet de Tobrouk et qu'on vous voit avec votre téléphone, avec vos bateaux, avec vos avions, on se dit qu'au fond, vous êtes un personnage de roman. D'ailleurs, votre livre que je préfère, moi, c'est Comédie. Parce que dans Comédie, vous vous décrivez comme un personnage de roman. Vous vous décrivez comme romanesque, au fond, avec vos forces et vos faiblesses. Et il n'y a pas que les forces. Il y a beaucoup les faiblesses dans Comédie, parce que c'était juste après l'échec de votre film, le film de fiction, celui-là, Le jour et la nuit. Est-ce que vous vous voyez vous-même comme un personnage de roman aujourd'hui ?
Non, je ne me vois pas comme un personnage de roman. Je me vois comme quelqu'un qui, d'abord, qui fait des choses, qui essaie de faire des choses utiles. Mais ça, bon, ça va pour le côté bon Saint-Bernard. Je me vois aussi comme quelqu'un qui aime la vie qu'il mène. Voilà, je dirais plutôt ça. Plutôt que personnage de roman, je suis joyeux.
Beaucoup plus que les gens ne le croient, d'ailleurs.
Mais naturellement.
On vous prête une totale absence d'humour.
J'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime rigoler, mettre les gens mettre les gens que je méprise en émoi face à l'objet bizarre que je leur fous sous le nez en ce moment, qui est le serment de Tobrouk, ça me réjouit absolument. Tous ces gens qui sont absolument éberlués, qui disent mais comment est-ce qu'on peut à la fois se mettre en scène, être devant la caméra, derrière, etc. Ce malaise que je sens, cet affolement, ces commentaires déréglés, je trouve ça totalement réjouissant. Alors, je vous dirais plutôt ça. Je me réjouis beaucoup.
Oui. Est-ce que vous êtes réjoui quand vous voyez, je fais allusion à ce sondage, il n'y en a pas eu qu'un d'ailleurs, mais tous les sondages, à chaque fois qu'on demande aux Français quel est l'intellectuel le plus influent, ils répondent. En majorité, Bertrand Lévy, est-ce que vous le prenez pour un compliment?
Oui, bien sûr.
Mais vous pensez bien que tous les antisémites ont dit c'est Bernard Lévy. Et par antisémitisme, ils l'ont dit.
Ah, j'avais jamais pensé à ça, oui, que les antisémites...
Pourtant, vous y pensez souvent à l'antisémitisme. Pour une fois, vous n'y avez pas pensé. Ça m'étonne.
J'y pense pas si souvent que ça. Vous savez, ça, puisque vous me parlez de Comédie, je crois que c'est dans Comédie que je le dis. C'est dans mes lettres avec Houellebecq. Je lui raconte comment j'ai pris conscience très tard de l'antisémitisme.
Vous n'en avez jamais été victime. Vous l'avez
jamais
dit,
été victime. Et encore aujourd'hui.
Je parle de votre enfance, de votre jeunesse.
Mon enfance, et même aujourd'hui.
Mais vous le traquez, l'antisémitisme. Je vous ai dit d'ailleurs un jour, si vous le voyez partout, à force, vous allez le banaliser.
Mais je le vois, d'abord, je ne le vois pas partout. Je vois le racisme beaucoup plus que l'antisémitisme. Je suis le cofondateur d'une organisation qui s'appelle SOS Racisme et qui se battait contre les discriminations concernant les Français d'origine maghrébine ou d'origine africaine. Je ne se battais pas beaucoup contre l'antisémitisme. Et au fond de moi-même, d'ailleurs, je pense, ça vraiment là, sérieusement, je pense que s'il y a un danger dans la France d'aujourd'hui, il est beaucoup plus le racisme anti-arabe que l'antisémitisme. Ça, c'est mon analyse. Maintenant, ça m'empêche pas, quand je vois une manifestation d'antisémitisme ici ou là, de le dire, parce que je pense que c'est égal, que c'est immonde. Je pense que ça rend la France et l'Europe bêtes, ça les abaisse et que ça mène au pire. Voilà. Mais je suis pas obsédé. Mais surtout, ce que je vous dis, c'est pas ça. C'est que j'y pense rarement me concernant. Combien de fois n'ai-je pas eu des amis qui m'ont dit « Oh là là, telle et telle attaque, ça c'est l'antisémitisme, je sais même pas de quoi. » Moi je n'y pense pas, je crois pas du tout à ça. Je crois pas que ce soit une manifestation sournoise d'antisémitisme qu'il faille voir derrière les attaques contre, je ne sais pas, le jour et la nuit, ou que sais-je. Ou derrière, oui, mon influence, pour ça je vous dis, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Je vous promets que je ne me suis jamais dit, quand je vois ces enquêtes me donnant de l'influence, je pense non, que les gens songent à ce coup de téléphone à Sarkozy, à la manière dont il a eu la bonté, et c'est pas une blague, je suis très sérieux, de m'écouter jusqu'au bout de cette guerre. Je pense qu'il avait raison de m'écouter. C'est à ça que je pense que les gens pensent. Je pense pas que ce soit les antisémites, mais là vous m'ouvrez un horizon, mais que je referme aussitôt.
Oui, je préfère aussi.
Ouais.
Le fait d'être juif, vous en parlez à peu près dans tous vos livres, y compris dans ce film. Bernard Lévy, quelle importance cela a-t-il pour vous?
Extrême.
Vraiment.
Extrême.
Et en quoi êtes-vous juif? Vous croyez en Dieu? Vous êtes
non.
religieux? C'est
non.
quoi? C'est,
non,
c'est
non.
de la fidélité? C'est...
Non plus. Non plus.
C'est une fraternité?
C'est pas de la fidélité, parce que mes parents étaient peu juifs. C'est pas de la fraternité, parce que le judaïsme auquel je crois est un judaïsme de la singularité. C'est pas tellement un judaïsme de la communauté. Ça n'est pas une question de Dieu, parce que je crois que la question de Dieu n'est pas la question la plus importante à laquelle est à répondre un juif. Il y a un grand sage de la tradition, le génie de Vilna, qui disait qu'entre un ignorant en transe devant le Seigneur et un savant qui doute, il préfère le savant qui doute. Donc la question de Dieu n'est pas là. Et enfin, vous disiez, est-ce une religion? Je ne suis pas religieux. Et Levinas et Rosenzweig, qui sont mes maîtres en judaïsme, disaient que le judaïsme, c'est une catégorie qui excède c'est une notion qui excède les régimes traditionnels de la religion. Donc c'est rien de tout ça. C'est un rapport à certains textes. C'est un rapport à une poignée de livres.
Mais qu'on pourrait avoir lu sans être juif.
Naturellement. Mais quand on les lit vraiment, quand on les lit en les pénétrant, on devient juif.
C'est le Talmud.
C'est par exemple le Talmud, ou c'est les grands commentateurs du Talmud. Moi, je pourrais vous citer aujourd'hui. Il y a un écrivain français auquel je pense, mais qui a une telle pénétration, un tel acharnement à entrer dans le Talmud, un écrivain que vous connaissez. Moi, on me dirait demain qu'il est aussi juif que moi, que j'en serais pas surpris.
C'est qui?
Peu importe. Non, c'est son intimité. Ça, je veux pas. Il viendra vous le dire un jour peut-être. Mais voilà. Donc, pour moi, être juif, c'est avoir un certain type de rapport à certains textes. C'est pas n'importe quel rapport. Les textes de la tradition juive, ça se lit pas comme du Bob Moran ou même du Stendhal. Ça, c'est sûr. C'est un certain type de rapport. À certains textes que l'on interroge d'une certaine manière, voilà.
Et alors,
je suis juif en cela, et être juif en cela, ben, ça vous donne un éclairage du monde, une manière de le regarder, ni meilleure ni pire qu'une autre, mais enfin différente, qui enrichit en tout cas celle que m'ont enseigné François Châtelet quand il m'apprenait Platon, ou Hippolyte quand il m'enseignait Hegel, ou Althusser quand il m'apprenait à lire Marx.
Vous disiez tout à l'heure, en parlant de l'avion présidentiel, que c'était votre manière d'être libre que de ne pas le prendre. Ça aide à être libre, ces livres-là. Et qu'est-ce que c'est qu'être libre pour vous, Bernard et Lévy ?
Être libre, en effet, et ça, c'est une des choses que je trouve dans la pensée juive, c'est se désassujettir, se s'extraire de tout ce qui peut vous poisser.
De la pensée juive ?
De tout ce qui peut vous alourdir, de tout ce qui peut vous enraciner, c'est-à-dire toutes les organicités, ce que n'est pas le texte. La littérature, qui tissait ce que Blanchot appelait des communautés inavouables, c'est la seule forme de communauté qui ne vous asservisse pas, mais qui libère. C'est rare, les communautés qui libèrent. Les communautés qui se font autour d'un texte, alors le texte juif, par exemple, enfin, il n'y a pas que ça. Je fais aussi partie de la communauté de ceux qui admirent Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry. Je fais aussi partie de ceux qui admirent l'Iliade, le plus beau livre jamais écrit sur la guerre, et ainsi de suite. Donc, être libre, c'est s'arracher par les textes et par la loi, par les textes de la littérature et par la loi morale ou par la loi juive. Enfin, tout ça, chacun fabrique bricole son système comme il le veut, s'affranchir de la terre, la race, la supposée race, la classe sociale, l'origine supposée fatale, et ainsi de suite.
Donc, voilà. Y compris de se libérer du judaïsme.
Oui, on peut... il y a par exemple en Israël des hommes que avec lesquels je suis en débat permanent. Je pense à l'un d'entre eux qui est une figure tout à fait étrange. Il s'appelle Uri Avneri. Il est profondément juif et il est animé alors d'une détestation de soi, du judaïsme en lui, qui est absolument incroyable. Et je crois que ça n'est possible quasiment que dans le judaïsme. Détestation du judaïsme, des problèmes avec Israël absolument insondables. Uri Avneri, certains de ceux qui nous écoutent, c'est quelqu'un que je trouve détestable. Par ailleurs, mais il y a quelque chose comme une espèce de forme de liberté suprême qui ne manque pas d'allure.
Oui. Mais qui a l'air d'être la liberté de cet homme-là, mais pas la vôtre.
Mais pas la mienne, non.
Vous ne vous êtes pas libéré de ça, alors?
Moi, au contraire. Moi, je viens d'une famille qui avait cru qu'il fallait se libérer de cela, qui avait pensé au lendemain de la Shoah que le judaïsme était quelque chose qui rendait malheureux, que c'était quelque chose qui vous désignait à la vindicte des méchants, et qu'il fallait donc en libérer ses enfants. C'est ce qu'a pensé mon père, qu'il fallait m'en libérer. Et donc moi, j'y suis retourné à l'âge de 30 ans, avec un livre qui s'appelait « Le Testament de Dieu », je suis retourné à cette loi et à ces textes dont je ne savais rien. Et y retournant, je m'y suis enfoncé avec volupté, avec entêtement, j'espère, un petit peu de science et de manière irrévocable.
Bernard-Henri Lévy, vous avez écrit des romans, une pièce de théâtre, vous avez écrit des films, et on parlait du jour et la nuit. Je parle de films de fiction cette fois. J'ai l'impression que vous y avez renoncé à tout ça. Plus de romans, plus de pièces.
Non, j'y ai pas renoncé. Non, je meurs d'envie de refaire de la littérature. J'adorerais refaire un film de fiction. Mais simplement, la vie est ce qu'elle est. Et l'urgence du temps et la folie du jour, comme disait encore Blanchot, qui fait que, si vous voulez le détail, j'ai un roman en chantier depuis... attendez voir, qu'est-ce qu'on est là, 2012. Je pense que j'ai un roman en chantier depuis la guerre de Bosnie. Donc ça fait 20 ans. Alors il y a eu la guerre de Bosnie. Après, il y a eu ce travail sur les guerres oubliées que j'avais fait pour le journal Le Monde. Après, il y a eu Daniel Pearl qui m'a requis pour des raisons que j'ignore moi-même, d'ailleurs encore aujourd'hui, d'une manière démente. Je me suis plongé là-dedans comme un fou. Et puis après, voilà, d'autres choses. Et puis le Darfour. Puis quand c'était plus le Darfour, c'était la Libye. Donc voilà, j'ai un roman qui est en cours depuis longtemps et j'ai très envie de le terminer, mais je sais pas, peut-être quand la folie du jour me laissera un peu de loisir.
Aujourd'hui, si je vous demandais qu'est-ce que vous avez fait de mieux dans votre vie, dans votre carrière, je parle pas de votre vie intime, hein.
Ce serait
la Libye.
Oui, c'est le serment de Tobrouk et l'aventure qu'il raconte, c'est-à-dire tout, mais oui, c'est ce que j'ai fait de mieux pour moi, parce que c'est tout ce que j'ai tenté de faire toute ma vie qui s'est trouvé ramassé là comme dans une espèce de grappe, comme dans une espèce de pelote. Hein. Tout se trouve condensé comme dans un miroir par un champ magnétique. Voilà, tout ce que j'ai tenté, tout ce que j'ai rêvé, tout ce que j'ai conceptualisé, l'ingérence, le devoir à l'égard d'autrui, ne pas laisser se faire les massacres, considérer que la responsabilité de chacun est une responsabilité universelle et pas comme croient les crétins lepénistes, de plus en plus faible à mesure qu'on s'éloigne de sa cousine ou je sais pas comment ils disent ça, etc. Tout ce que j'ai cru, que j'ai tenté de mettre en œuvre très très souvent, je ne l'ai jamais mis en œuvre avec autant d'acharnement et de succès que la Libye. Donc c'est ce que j'ai fait mécaniquement de mieux. Le savant de Tobrouk, c'est probablement l'œuvre, voilà, je pourrais disparaître demain ou arrêter. Bah, il me semble que c'est ce que j'aurais fait de plus achevé.
Et qu'est-ce que vous avez raté, ce dont vous êtes le moins fier ?
Ce dont je suis le moins fier, pas grand-chose, non. Je suis... Non.
Attendez. Quel crâneur.
Non, attendez, le moins fier. En tout cas, je rougis de rien.
Voilà. Non, mais vous pourriez dire, ça, je l'ai raté.
J'ai raté la Bosnie. La Bosnie, j'ai vu juste...
Non, mais je pensais à un livre, à un film.
Vous pensez au jour et à la nuit ?
Pas seulement.
Je crois pas. Le jour et la nuit, je pense que c'est un film réussi. Et qu'on s'en rendra compte un jour.
Qu'on vous rendra justice.
Et je ne cède pas un pouce sur la question du jour et la nuit.
Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été mon invité sur France Culture. C'était le Tête à Tête, une émission préparée par Romain de Bec-de-Lièvre et réalisée par Anne-Pascale Desvignes. À la technique aujourd'hui, Michel Mestre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.